Là, on a commencé par le Brexit, avec évidemment un devoir d'éclaircissement sur ce qui est en train de se produire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en compagnie de Pauline Schnapper. Bonjour, vous êtes professeure de civilisation britannique à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, auteur du Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union européenne, à la documentation française. Et nous sommes attachés les services d'un chroniqueur pour tenter d'éclaircir là aussi la situation. Il s'agit d'Emmanuel Macron, le Brexit et la situation actuelle vue par Emmanuel Macron.
Première option, ils vont vers le no deal. Donc ils disent, il n'y a pas d'accord. Ça fait peur à tout le monde. Les premiers perdants de ça, ce sont les Britanniques. Et il faudra de toute façon qu'on négocie avec eux une période transitoire, parce que les Britanniques, ils ne peuvent pas se permettre de plus avoir un avion qui décolle ou qui atterrit chez eux, et leur supermarché, à 70%, ils sont approvisionnés parce qu'il vient de l'Europe continentale. Deuxième option, ils nous disent, on va essayer, à mon avis c'est ce qu'ils vont faire, je les connais un peu, on va essayer d'améliorer ce qu'on peut obtenir des Européens et on va revenir faire le vote. Là, on regardera. Peut-être qu'on peut améliorer un ou deux points. Je ne crois pas tellement, parce qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire dans l'accord. Et on ne va pas, pour essayer de régler un problème de politique intérieure britannique, ne pas défendre les intérêts des Européens. Puis il y a une troisième option qui est de nous dire, et à mon avis, ils vont commencer par la deuxième, puis ça finira à la troisième, on prend les paris, je prends mes risques, c'est qu'ils vont dire, au fond, on va prendre plus de temps. Et donc, ils vont demander d'avoir un plus grand délai pour renégocier quelque chose.
Pauline Schnapper, 1, 2, 3 comme option. Il y a donc aujourd'hui plusieurs possibilités sur la table. Absence donc d'accord, un accord plus tard ou bien un nouveau vote. Comment voyez-vous les possibilités qui sont aujourd'hui offertes à Theresa May, la première ministre britannique ?
Ce sont bien effectivement les trois scénarios possibles. Le no deal, l'absence d'accord, c'est le scénario par défaut. C'est-à-dire si rien ne se passe, si on n'arrive à rien d'ici le 29 mars, c'est ce qui se passe. Personne ne le souhaite, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, comme ça arrive parfois en relations internationales. Je crois plutôt, mais avec toute la prudence qui s'impose, parce qu'on a eu tellement de surprises ces derniers mois, que le gouvernement britannique va demander un délai sur le fameux article 50, donc reculer la date du 29 mars pour se donner un tout petit peu de latitude, soit pour renégocier effectivement, donc essayer d'obtenir un autre accord plus soft, pour reprendre la terminologie en vigueur à Londres.
C'est doux.
En français ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin en anglais on voit bien ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire rester plus proche de l'Union européenne, en d'autres termes, peut-être rester dans le marché unique ou en tout cas l'union douanière.
L'article 50, que désigne-t-il et en quoi est-il problématique ?
Alors, le fameux article 50, c'est donc l'article 50 du traité de Lisbonne, qui, pour la première fois, prévoit la possibilité de sortir de l'Union européenne. Jusque-là, il n'en était pas question. Une fois, on entrait pour l'éternité. Cet article 50, c'est un article très court, qui dit simplement qu'un État peut demander à sortir de l'Union européenne, que dans ce cas-là, il déclenche un processus, quand il le souhaite, qui dure deux ans de négociation, et à la fin de ces deux ans, il sort. Donc ce processus a été déclenché en mars 2017 par Theresa May, avant qu'elle ait vraiment une idée de ce qu'elle souhaitait, ni surtout qu'il y ait un consensus dans son gouvernement, dans son parti, ou a fortiori dans le pays, sur ce qu'il souhaitait à l'avenir. Et donc ces deux ans se terminent le 29 mars. Si rien ne se passe, le Royaume-Uni sort sèchement le 29 mars.
On a du mal à imaginer ce que pourrait être un no deal, une absence d'accord. Alors, ça signifierait quoi ? Ça veut dire que chaque point serait négocié de gré à gré, qu'il y aurait un vide juridique ? Parce que le Brexit, Pauline Schnapper, il faut expliquer qu'évidemment, ça recouvre des choses qui sont extrêmement concrètes. Comment gérer, par exemple, les marchandises qui sont vendues au Royaume-Uni, qui sont achetées depuis le Royaume-Uni, le passage aux frontières, bref, 1000 détails qui doivent nécessairement être régulé.
Absolument. Donc c'est pas vraiment qu'il y a un vide juridique, mais c'est que du jour au lendemain, pratiquement d'une heure à l'autre, le Royaume-Uni devient un pays tiers par rapport à l'Union européenne. Et donc, en particulier, ça veut dire contrôle aux frontières. Contrôle pour les personnes, mais ça, à la limite, il existe déjà, mais surtout contrôle des marchandises. Or, pour l'instant, depuis le marché unique, depuis le début des années 90, on a un passage quasiment sans contrôle à Calais, à Douvres, des milliers de camions qui traversent la Manche tous les jours, et le président Macron y faisait allusion tout à l'heure. Par exemple, un exemple parmi beaucoup d'autres, les Britanniques importent quasiment la moitié de ce qu'ils mangent du continent. Depuis, donc vous avez des camions de salades, de tomates qui traversent tous les jours, mais aussi, peut-être plus important, de médicaments qui traversent tous les jours la Manche.
Alors, mais c'est imaginable comme scénario ?
Alors, en principe, c'est pas qu'ils pourraient plus traverser, bien sûr, mais c'est qu'il y aurait des contrôles. Et on a calculé que même quelques minutes de contrôle, c'est-à-dire vraiment très peu, suffiraient à provoquer des embouteillages monstrueux des deux côtés. Donc ça, c'est la grosse inquiétude sur un no deal. Alors après, en pratique, est-ce que des arrangements pourraient être trouvés concrètement pour minimiser ces contrôles? C'est tout à fait possible. Mais enfin, au moins dans un premier temps, on peut imaginer quand même des scènes assez chaotiques aux frontières.
Comment cela se fait-il que tout ceci n'ait pas été anticipé à l'avance? Comment cela se fait-il que finalement ce Brexit ait été proposé de part et d'autre sans qu'il y ait manifestement de plan préétabli, Pauline Schnapper?
Ah bah c'est toute la question. Hein. Ce sujet précis des conséquences pratiques d'un no deal n'a absolument pas été abordé pendant la campagne du référendum il y a 2 ans. Y compris par les partisans du maintien dans l'Union européenne, ce qui était quand même
parce que les détracteurs.
Oui, là on les comprend, mais enfin ça aurait été un argument quand même important. Et ce qui est tout à fait invraisemblable, c'est que l'ancien ministre du Brexit, Dominic Raab, qui a démissionné il y a quelques mois maintenant, a déclaré publiquement, quand il était ministre, qu'il n'avait pas mesuré à quel point le tunnel sous la Manche était un lien d'une telle importance pour le Royaume-Uni. Donc là, les bras vous en tombent quand même.
Il ne s'était pas rendu compte donc que l'Angleterre était une île, mais au-delà de ça, Pauline Schnapper, comment cela se fait-il que le camp du Brexit, les Brexiteurs, eux-mêmes n'aient pas essayé d'envisager un peu plus loin ce qui allait se produire si le Brexit l'emportait, ce qui est arrivé?
Alors le discours qu'ils tiennent aujourd'hui, qui est assez surprenant, c'est un peu un discours à la 1940, c'est-à-dire oui, nous allons traverser une épreuve, ça va être compliqué pendant quelques temps, mais nous sommes les meilleurs, nous y arriverons, et à terme, nous conclurons un accord de libre-échange avec l'Europe, et donc les échanges ne seront pas vraiment affectés, en tout cas, encore une fois, à long terme. Nous conclurons surtout des accords de libre-échange avec d'autres pays émergents, en pleine croissance, la Chine, l'Inde, etc., qui représentent l'avenir. Et donc, bon, bah oui, on va avoir quelques mois difficiles peut-être, mais c'est pas grave, ça s'arrangera.
Pour l'instant, le Royaume-Uni a eu ou pas des mois difficiles? Parce que là aussi, il y a un débat, des controverses. A-t-on déjà la possibilité de percevoir les effets anticipés, en quelque sorte, du Brexit?
Pas vraiment. Parce que, évidemment, le Brexit n'a pas eu lieu. Donc, les conséquences économiques directes n'ont pas encore été senties.
Il y a quelques emplois qui ont été perdus.
Ce qu'on voit, c'est déjà quelques emplois, notamment à la City, mais ça, après tout, ça n'affecte qu'une partie très, très réduite de la population, ont été perdus. Quelques entreprises ont déjà commencé à dire que si ça continuait comme ça, elles allaient réduire leur nombre d'employés. Donc, on annonce des fermetures, non pas des fermetures d'usines, mais des réductions de postes dans l'industrie automobile en particulier. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu de catastrophe économique. On est plutôt dans des évolutions faibles. La croissance a faibli, mais elle n'a pas disparu. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas eu de catastrophe, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas après le 29 mars.
Qu'est-ce qui va se passer pour les Anglais qui sont présents en France, pour les Français qui sont présents en Angleterre? Il y a beaucoup d'inquiétudes. A-t-on raison, là, de se faire un peu de mouron à ce sujet, Pauline Schnapper?
Il y a beaucoup d'inquiétudes. Le discours officiel des deux côtés, d'ailleurs, côté européen comme côté britannique, c'est que les droits des ressortissants européens déjà présents au Royaume-Uni et inversement seront conservés, seront maintenus, qui pourront, par exemple dans le cas des Européens qui résident au Royaume-Uni, ils pourront rester, ils auront simplement à s'enregistrer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Mais il y a quand même des inquiétudes parce que une fois sortis de l'Union Européenne, par exemple, c'est le gouvernement britannique qui sera libre évidemment de ses lois concernant les étrangers, et qui sait si dans 2 ans, 5 ans, ils diront pas tout d'un coup que bon, si vous n'avez pas tel revenu, par exemple, vous pouvez pas rester dans le Royaume-Uni. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de ressortissants français notamment, mais européens en général, s'inquiètent beaucoup de l'avenir. Il n'y a pas de garantie vraiment écrite noir sur blanc, surtout faute d'accord pour l'instant, sur les droits de ces citoyens.
On a beaucoup dit que parmi les choses qui n'avaient pas été anticipées et qui expliquent la situation actuelle, j'allais dire la panade en matière donc de négociations que l'on assiste au sujet du Brexit, Pauline Schnapper, il y a la question de l'Irlande du Nord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi elle consiste et pourquoi là aussi ça a été une tâche aveugle dans les négociations antérieures?
Alors, en deux mots, la frontière entre le Nord et le Sud de l'Irlande, je rappelle que le Nord fait partie du Royaume-Uni, le Sud est indépendant et reste bien sûr dans l'Union Européenne. Donc cette frontière, du jour au lendemain, deviendrait la frontière de l'Union Européenne, avec tout ce qu'on vient de dire sur les contrôles de marchandises, en particulier à cette frontière. Or, C'est très problématique pour les Irlandais, du Nord comme du Sud, parce que cette frontière a disparu depuis 20 ans, depuis les accords de paix du Vendredi Saint, qui ont permis la fin de la violence politique en Irlande du Nord, entre les deux communautés nationalistes et unionistes. Et donc, cette frontière, c'est pas seulement une frontière économique, c'est pas seulement une frontière de passage de population, c'est aussi une frontière très politique et très identitaire, si je puis dire. C'est-à-dire que pour les républicains du Nord de l'Irlande, l'absence de frontières, c'est une espèce de premier pas vers le rêve d'une réunification de l'Irlande. Et donc, il n'est pas question pour personne, en principe, de revenir sur cette frontière. Là encore, ça n'a absolument pas fait l'objet de débat pendant la campagne référendaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des gros problèmes. Comment éviter de remettre une frontière physique entre le Nord et le Sud ? Tout le monde est d'accord pour l'éviter, mais c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire, si ça devient la frontière de l'Europe, il y a forcément des contrôles aux frontières, et donc une frontière physique qui revient.
On a évoqué donc cette question de l'Irlande du Nord, toutes les questions concrètes et extrêmement importantes qui doivent être résolues. Y a-t-il encore d'autres choses qui font problème, Pauline Schnapper, en matière d'accord ?
C'est surtout cette question de l'Irlande et donc du fameux backstop, c'est-à-dire ce que Theresa May avait accepté dans l'accord qui a donc été rejeté avant-hier soir, c'était l'idée que pendant une période de transition au moins, mais qui est et peut-être plus, au-delà, jusqu'à ce qu'un accord soit signé, un accord de libre-échange puisse être signé, l'ensemble du Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord, resterait dans l'union douanière. Et ça, cette ouverture, c'est quelque chose que les Brexiteurs les plus farouches refusent absolument, parce que ça veut dire qu'ils ne pourraient pas signer d'accord commercial avec des pays tiers. Si on est dans l'union douanière de l'Union européenne, on ne peut pas avoir de politique commerciale propre.
Cet accord est-il amendable, et si oui, comment ? Puisque donc on a vu que l'accord avait été rejeté, alors d'après ce qu'on a pu comprendre, les uns l'avaient rejeté parce qu'il était trop mou, les autres parce qu'il était trop dur. Y a-t-il un point moyen ? Qu'est-ce qui peut encore être aménagé ?
Alors, c'est compliqué parce que vous avez entendu le président Macron tout à l'heure, les Européens n'ont pas du tout envie de réouvrir des négociations. On a passé 18 mois à négocier 585 pages de texte, et je pense qu'à Bruxelles, on trouve que c'est un peu rude de le voir rejeté par un vote comme ça. Et l'idée de recommencer, de réouvrir des négociations, voilà, ne doit pas faire plaisir à grand monde.
Peut-être qu'on peut en réutiliser quelques-unes parmi ces 585 pages.
Ce qui reste quand même une option, mais sur laquelle pour l'instant il n'y a pas de consensus, mais on va voir dans les jours qui viennent, ça serait de réouvrir une négociation pour aller dans la direction de ce qu'on appelle le modèle norvégien, par exemple. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais est dans le marché unique. Ce qui veut dire qu'elle est obligée d'appliquer toutes les règles, libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Et la Norvège paye au budget européen. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour l'instant très difficilement acceptable par tous les Brexiteurs et par Theresa May, qui pour l'instant dit que c'est une ligne rouge, pas question de rester dans l'union douanière. Donc vous voyez, pour l'instant, on est vraiment dans l'impasse.
C'est une fausse bonne solution, puisque...
En même temps, ce serait quand même une formule de compromis qui peut-être pourrait remporter l'adhésion d'une majorité au Parlement, je ne sais pas.
J'aurais envie de vous dire quel est l'intérêt du Brexit si...
Exactement.
Et dans ces conditions, quelles sont... Parce que là aussi, il y a beaucoup d'interrogations dans la presse française de ce matin, notamment sur la personnalité de Theresa May, sur finalement à la fois sa quête existentielle, lorsqu'on essuie ce refus, pourquoi rester ? Qu'est-ce qui fait finalement que cette femme politique demeure à la barre, alors que sa situation est tout de même tout à fait inédite, puisque ce qu'elle propose est refusé, et à la fois, pour des raisons de politique intérieure, elle n'est pas aujourd'hui renvoyée hors du Parlement. Donc on voit bien qu'il y a une situation quand même tout à fait étonnante. Elle était favorable au Brexit, elle y était plutôt hostile. Bref, qu'est-ce que cette femme recherche ? Quelle est sa politique, sa ligne politique, Pauline Schnapper ?
Alors, je me garderai d'avancer sur la psychologie de Theresa May, mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que, donc, au départ, elle était pour rester dans l'Union européenne, mais pas avec un enthousiasme fou. On l'a très peu entendu dans la campagne de 2016. Dès donc le jour du scrutin, enfin le lendemain du scrutin, elle a dit « Bon, moi j'étais pour Remain, mais puisque vous avez voté pour sortir, on va sortir. » Et ce qui est plus étonnant, c'est que dans les mois qui ont suivi, très vite, elle a pris une position plutôt jusqu'au boutiste favorable à un hard Brexit, c'est-à-dire elle a tout de suite dit « Nous ne resterons ni dans le marché unique, ni dans l'union douanière. »
C'était même sa ligne politique.
Voilà, depuis le début de ces négociations, alors qu'encore une fois, c'était quand même une position qui n'était pas forcément partagée par tout le monde, loin de là. Il y a quand même eu 48% des électeurs qui voulaient rester. C'était pas une position de compromis, c'était une position très radicale. Et elle s'accroche à cette position depuis.
Par calcul, pas par conviction, puisque...
Oui, sur ses convictions, je ne sais pas. Je pense que c'est lié au fait qu'elle a interprété le résultat du référendum comme d'abord et avant tout un refus de l'immigration européenne. Souvenez-vous qu'elle a été ministre de l'Intérieur pendant 6 ans et elle a une position très dure sur l'immigration pendant toutes ces années-là. Elle a compris le vote de ces 52% contre l'Europe comme un vote contre l'immigration. Et donc pour elle, pour satisfaire cet électorat, la priorité c'était de reprendre le contrôle, pour utiliser le slogan de l'époque, des frontières. Et ça voulait dire forcément ne pas rester dans le marché unique qui suppose la libre circulation.
Et pourquoi avait-elle cette interprétation-là? Qu'est-ce qui lui permettait de dire... Parce qu'il y a différentes choses qui ont été évoquées lors de la campagne du Brexit. Il y avait à la fois la question migratoire, il y avait aussi la question économique. Qu'est-ce que l'Angleterre paye? Qu'est-ce qu'elle reçoit? Bref, il y avait différents éléments. Pourquoi faire ce tri?
Alors, c'est une interprétation qui n'était pas fausse, c'est-à-dire qu'effectivement, les sondages ont montré que la question migratoire avait été très importante dans le choix des électeurs du Leave. L'économie avait moins joué. Elle a surtout joué pour les électeurs favorables à rester dans l'Union européenne. Donc, je pense que c'est ça la raison pour laquelle elle a fait cette interprétation, mais quand même très radicale et surtout sur le plan économique, pas du tout raisonnable.
Et donc, aujourd'hui, elle est en quelque sorte prise à son propre piège, puisque lorsqu'elle dit Brexit means Brexit, autrement dit, une phrase assez jusqu'au boutiste, elle a du mal à aller vers une solution qui serait plus une solution de compromis.
Elle s'est absolument enfermée dans cette position. Il y avait Brexit means Brexit. Il y avait aussi qu'il valait mieux pas d'accord qu'un mauvais accord, qui est sur lequel aujourd'hui évidemment elle se trouve en porte-à-faux complet. Donc elle a quand même fait beaucoup d'erreurs pendant toute cette période.
On se retrouve dans quelques instants, Pauline Schnapper. Je rappelle que vous êtes professeure de civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous avez notamment publié Le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union européenne? Une question qui est aujourd'hui d'actualité. Vous serez rejointe par Vivien Pertuzot. Il est responsable de l'Institut français des relations internationales à Bruxelles. Et on évoquera cette fois-ci la stratégie, ou l'absence de stratégie d'ailleurs, des institutions européennes par rapport à cette décision britannique. Bon réveil à tous, il est 8h sur France Culture. Et comme vous le savez, le projet d'accord sur le Brexit de Theresa May a été rejeté à une large majorité. Autrement dit, aujourd'hui, la première ministre britannique se retrouve dans une situation politique extrêmement complexe. Son accord est rejeté. Néanmoins, la motion de défiance n'a pas recueilli la majorité, donc elle est toujours aux manettes. Pour évoquer le sort du Brexit et puis plus généralement celui de l'Union européenne, nous sommes en compagnie de Vivien Pertuzot. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Institut français des relations internationales à Bruxelles. À côté de vous, Pauline Schnapper, qui est professeure de civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Peut-être tout d'abord une question sur la France, Pauline Schnapper. Aujourd'hui, la situation politique en France est inédite. Est-ce que l'on peut faire un parallèle entre cette situation politique inédite et la situation que l'on observe aujourd'hui en Angleterre ou bien hier, par exemple, à l'époque du Brexit? Y a-t-il en quelque sorte une pente naturelle entre les différents pays occidentaux?
Je crois qu'il y a, peut-être un point commun qui est une crise de la démocratie représentative. Dans le cas britannique, le recours au référendum a court-circuité, bien sûr, le circuit normal de la prise de décision par le gouvernement et le Parlement. On a demandé au peuple directement de répondre par oui ou par non à une question aussi complexe que celle de l'Union européenne. En France, on voit évidemment depuis 2 mois une remise en cause du mode de fonctionnement normal des institutions, c'est-à-dire un président élu au suffrage universel qui gouverne pendant 5 ans, appuyé sur une majorité au Parlement. Voilà, il y a des échos très très clairs sur un fond de situation qui peut être assez différente, c'est-à-dire que entre la situation économique et sociale britannique et disons l'électorat du Brexit en 2016 et puis la situation aujourd'hui en France, il y a quand même aussi des différences, mais enfin il y a un écho.
Justement, des différences, parce que là aussi, alors, la situation économique de la France, on la connaît. La situation économique de l'Angleterre, sur le plan du chômage, les chiffres sont plutôt bons. Sur le plan social?
Alors oui, sur le plan, disons, je ne suis pas économiste, hein, mais enfin, en gros, sur le plan macroéconomique, les chiffres sont plutôt bons hein, par rapport au reste du continent. Reste pour l'instant, c'est bon, même si la croissance a quand même faibli depuis quelques mois. Mais effectivement, sur le plan, j'allais dire micro, sur le plan individuel, sur le plan social, la situation est beaucoup plus difficile, notamment dans le nord de l'Angleterre, qui a beaucoup souffert sur le long terme, de décennies de désindustrialisation, bien sûr, mais aussi plus récemment des mesures d'austérité qui ont été imposées depuis 2010 par le gouvernement conservateur, après la crise de 2008, et qui a abouti à des réductions drastiques des dépenses publiques, et notamment des dépenses sociales. Et le vote de 2016 sur le Brexit, c'est aussi le résultat d'un malaise social très fort et qui avait été très négligé par la classe politique londonienne.
Vivien Pertuso, votre point de vue sur ce qui est aujourd'hui envisageable pour Theresa May. On a évoqué les trois options dans une première partie. On a dit que la première possibilité, c'était une absence d'accord. La deuxième possibilité, c'était un sursis de la part de l'Union européenne. La troisième possibilité étant un nouveau vote. Comment voyez-vous ces trois options ?
Il y en a même une quatrième en soi qui n'est pas à complètement évacuer, ce serait que les Britanniques décident d'arrêter le Brexit, ce qui est une possibilité. Ils peuvent unilatéralement dire, eh bien, nous revenons sur cette décision.
Sans passer aux urnes?
Sans passer aux urnes. C'est une décision qui peut se faire.
Alors, elle peut probablement se faire, comment dirais-je, institutionnellement, mais politiquement.
Oui, non, mais c'est
compliqué.
C'est une possibilité théorique. Il faut pas complètement l'évacuer. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la plus envisageable aujourd'hui. Effectivement, la plus envisageable, qui n'est pas forcément celle que préfèrent les Européens, ce serait une renégociation, avec les Européens, un délai supplémentaire qui serait assez long. Parce qu'il faut pas oublier non plus le calendrier européen qui est qu'il y a des élections européennes dans quelques mois et donc qu'il ne va pas y avoir non plus un court-circuitage du Brexit avec les élections européennes. Donc on serait sur un délai supplémentaire de plusieurs mois, le temps que la nouvelle Commission européenne se constitue, que le nouveau Parlement européen se constitue. Il faut rappeler quand même que même si les Britanniques, le Parlement britannique vote en faveur d'un accord, il faut également l'accord du Parlement européen. Donc tout ça ferait qu'on arriverait à un accord potentiel vers la fin de l'année 2019 au plus tôt.
Quel est l'intérêt de l'Europe, Vivien Pertuso, dans ce dossier-là? Alors, au début, il s'agissait de montrer que nous étions fermes, parce que on ne va pas laisser comme cela les autres pays nous traiter de manière désinvolte. Aujourd'hui, cet intérêt est-il toujours campé sur les mêmes positions?
Alors en fait, on a une position qui est assez compliquée parce que d'un côté, effectivement, les 27 veulent montrer qu'ils sont insolidaires, que les intérêts européens sont premiers et absolument fondamentaux et qu'ils ne transigeront pas sur les intérêts des 27 par rapport aux intérêts britanniques. De l'autre côté, personne ne veut un Brexit dur, personne ne veut que l'Union européenne paraisse absolument intransigeante et véritablement incapable de faire des compromis alors que la situation paraît extrêmement compliquée. Et on l'a vu d'ailleurs dans les derniers jours, personne n'est vraiment monté au créneau pour dire les Britanniques n'ont absolument aucun choix et doivent voter. Justement, les Européens ont été assez mesurés, assez nuancés. On n'a pas vu de prise de parole avant le vote d'avant-hier extrêmement dur. Et même depuis le vote, il y a quelques indices, quelques faisceaux d'indices qui pourraient laisser penser que les Européens pourraient renégocier probablement à la marge.
La situation politique en Angleterre, c'est aussi une donnée extrêmement importante pour comprendre la manière dont cet accord va être négocié, Pauline Schnapper. Et là, quelles sont les forces en présence ou l'absence de force? Parce que on voit bien que là aussi, la situation politique est caractérisée par une forme de décomposition.
Oui, on a un paysage politique très éclaté au Parlement, puisque donc Theresa May n'a pas de majorité d'abord, il faut s'en souvenir. Donc elle repose sur le parti conservateur qui est lui-même très divisé sur le Brexit, on l'a vu. Il y a à peu près le tiers du groupe parlementaire qui a voté contre l'accord avant-hier soir, pour elle hier soir. Mais il y a aussi des sous-groupes au sein du Parti conservateur qui seraient soit favorables à un accord type Norvège, soit à un deuxième référendum à rester dans l'Union européenne.
Un accord type Norvège, c'est conserver une forme d'accord commercial.
Rester dans le marché unique, voilà. Mais tout ça, ça fait pas une majorité au Parlement, donc elle a besoin des 10 voix des députés unionistes d'Irlande du Nord qui ne représentent quasiment qu'eux, enfin, qui représentent rien sur le plan électoral, mais qui ont tout pouvoir, si je puis dire, sur le gouvernement. Et puis, de l'autre côté, un parti travailliste qui, en fait, est assez divisé aussi, pas autant que les conservateurs, mais quand même assez divisé, et notamment avec un leader, Jeremy Corbyn, qui a un discours extrêmement ambigu sur l'Europe, sur la question du Brexit.
Il est pour ou il est contre?
Il me faudrait au moins 5 minutes pour vous répondre, c'est-à-dire qu'officiellement, il était contre à la base, mais il s'y est rallié un peu comme Theresa May. C'est-à-dire qu'il a dit, bon, ben voilà, le peuple a voté, il faut faire ce que le peuple a dit. Et encore très récemment, il y a quelques semaines seulement, il disait qu'il ne reviendrait pas sur le Brexit. En même temps, il est soumis en même temps à une pression très forte de l'intérieur de son parti, qui est beaucoup plus pro-européen que lui. Et donc, il y a une centaine au moins de députés travaillistes qui seraient favorables à un deuxième référendum. Donc, vous voyez un peu une situation extrêmement compliquée, éclatée, donc encore une fois, qui rend la recherche de compromis extrêmement difficile.
Mais alors, s'il était favorable au Brexit, il suffisait dans ce cas-là de ratifier l'accord de Theresa May?
Alors, il a dit depuis le début qu'il était contre cet accord de Theresa May parce que lui voulait rester, alors pas dans le marché unique, mais dans l'union douanière. Donc son discours en ce moment, c'est on veut rester dans l'union douanière.
Pourquoi?
Ce n'est pas pour protéger, dit-il, les emplois britanniques. S'il voulait vraiment protéger les emplois britanniques, il faudrait rester dans le marché unique. Mais enfin, bon, donc il a un discours qui est ambigu, qu'on commence à lui reprocher quand même très fortement. Donc il n'est pas impossible que dans les jours qui viennent, ce discours évolue.
On continue toujours dans les ambiguïtés ou les complexités de la scène politique britannique, Pauline Schnapper. Pourquoi rejeter un accord et demander à la personne qui l'a proposé, autrement dit Theresa May, de rester en poste?
Mais on est là encore dans les petits jeux politiques internes. Donc le vote contre l'accord, c'est en raison du fait que cet accord prévoyait de rester dans l'union douanière le temps de la transition au moins, pour empêcher la frontière en Irlande du Nord. Donc ça, les Brexiteurs les plus radicaux y étaient opposés, les unionistes irlandais aussi. Donc, d'où le résultat du vote. En revanche, la motion de censure hier soir, c'était donc pour faire tomber le gouvernement de Theresa May. Et ça, même les Brexiteurs d'un côté et les unionistes de l'autre n'en veulent pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils craignent l'arrivée au pouvoir des travaillistes. D'où la contradiction entre les deux votes en l'espace de 24 heures.
Vivien Pertuzot, aujourd'hui donc une situation extrêmement difficile à appréhender. Du côté européen, donc il y aurait, comment dirais-je, une main tendue ou en tout cas une attitude qui serait moins dure qu'auparavant. Quel serait l'intérêt de l'Europe et l'intérêt de la France, selon vous, dans ce contexte-là?
L'intérêt, c'est d'éviter une situation assez compliquée à gérer et totalement inédite, d'avoir un ancien membre de l'Union européenne qui est quand même une puissance économique assez importante, qui reste une puissance économique assez importante, qui se trouve littéralement aux frontières de l'Union européenne et avec lequel il n'y a pas d'accord particulier. Donc en fait, on se remettrait aux règles de l'OMC. Tous les États devraient rapidement, certains ont déjà commencé à le faire, mais tous les États devraient rapidement mettre en œuvre des mesures pour éviter que les flux commerciaux soient ralentis, pour éviter que les citoyens de leur pays et les citoyens britanniques qui se trouvent sur leur sol voient leurs droits complètement révoqués ou revus à la baisse. En fait, pour éviter véritablement une forme de chaos que les Européens ne souhaitent absolument pas dans une situation, et Pauline Schnapper l'a déjà évoqué, dans une situation politique, sociale et économique dans plusieurs États européens qui n'est pas franchement reluisante. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où les Européens ne souhaitent pas un Brexit dur, mais en même temps ne souhaitent pas paraître trop complaisants vis-à-vis des Britanniques.
Comment ça se passe par exemple avec la Suisse ?
Alors c'est très compliqué parce qu'on n'a pas tout à fait le même type de pays en face de nous. La Suisse est un tout petit pays qui subit dans une large mesure les positions européennes, qui a accès à une petite partie du marché intérieur, mais pas tout, qui négocie pour avoir plus, mais les Européens sont tellement plus forts par rapport à la Suisse que c'est vrai que la Suisse ne peut pas avoir le même poids que les Britanniques pourraient avoir. Et un des éléments clés pour bien comprendre la situation, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité majorité de la finance européenne se passe à Londres. Et donc c'est vrai qu'un Brexit dur signifie que ça va forcément compliquer la situation pour tout le système financier européen, même pour le système financier européen qui se trouve être marchandé en monnaie de l'euro.
Mais alors, on est bien d'accord effectivement sur les différences qui séparent la Suisse du Royaume-Uni, simplement les accords qui président aux échanges entre l'Europe et la Suisse, ils ont été négociés au fil de l'eau ou bien
c'est tout à fait au fil de l'eau, hein, et c'est quelque chose qui est revu, renégocié assez régulièrement. Et c'est vrai que ce qu'on voit finalement, c'est que il y a quelques années, les Suisses avaient fait une votation pour limiter un petit peu l'immigration en Suisse. Les Européens avaient réagi de manière assez vive en bloquant certaines négociations qui étaient en cours. Ce qui avait forcé un petit peu la main des Suisses. On aurait du mal à imaginer exactement la même chose du côté britannique.
Pourquoi ? Parce que, par exemple, il y a des Britanniques en France, et puis il y a des Français, mais pas seulement, évidemment, en Angleterre. N'y aurait-il pas la possibilité, justement, de faire valoir une sorte d'équilibre dans les échanges et dans les accords qui seraient des accords passés post-Brexit ?
Peut-être. Peut-être, c'est pas totalement impossible. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans le flou et dans l'inconnu absolu à ce niveau-là.
L'autre référendum, parce que donc ça aussi, alors Le Monde d'hier évoquait cette possibilité, sans dire évidemment qu'elle était certaine, mais en disant que cela faisait partie des options. Qu'en pensez-vous, Pauline Schnapper?
Alors, ça serait une façon évidemment de sortir de l'impasse, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un discours, on commence un petit peu à l'entendre d'ailleurs à Londres, sur le thème, écoutez, nous les députés, on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc on vous renvoie, à vous le peuple, la décision, vous avez voté une première fois, mais sans nous dire ce que vous vouliez vraiment, nous on n'arrive pas à se mettre d'accord, on redonne la parole au peuple. Ça c'est un argument qui pourrait peut-être passer, si je puis dire.
Avec quelque chose d'assez détaillé cette fois-ci.
C'est un des problèmes. C'est-à-dire, le premier problème, c'est quand même comment justifier sur le plan démocratique de refaire voter des gens sur la même chose.
Je ne sais pas moi, le blocage des institutions, par exemple.
Voilà, donc ça serait le seul argument, je pense, qui pourrait être acceptable. Mais quand même, on entend aussi des électeurs du Brexit dire, ça y est, nous on a voté, maintenant faites-le, et puis on sort, et puis voilà. Donc ça pose quand même un problème. Et on peut imaginer une campagne électorale des partisans du Leave disant, vous voyez la preuve du complot des élites, on va vous demander de revoter jusqu'à ce que vous votiez bien, etc. Donc, ça, premier problème politique. Deuxième problème, quelle question on pose ? Est-ce qu'on repose la même qu'en 2016 ? Ou est-ce qu'on propose un choix multiple, j'allais dire, avec plusieurs types d'accords, plusieurs types de sorties ? Bon. Et troisième problème, quid ? Que fait-on si le résultat soit est le même qu'il y a qu'en 2016, ce qui n'est pas exclu, soit est 52-48 dans l'autre sens ? C'est-à-dire pourquoi 52-48 pour rester serait plus valable que 52-48 pour sortir.
Je ne sais pas, donc on pourrait faire des moyennes entre les deux scrutins.
Voilà, donc vous voyez un peu concrètement, si vous voulez, les problèmes politiques que ça pose. C'est pour ça qu'il n'y a pas du tout d'enthousiasme général, disons. Il y a un enthousiasme d'une partie de la classe politique pour un deuxième référendum, mais beaucoup de méfiance aussi. Et pour l'instant, un refus total et de Theresa May et de Jeremy Corbyn.
Mais alors, je vais vous embêter quand même toujours dans cette perspective-là, Pauline Schnapper. Est-on capable de savoir aujourd'hui ce que l'opinion britannique pense? Y a-t-il aujourd'hui des remords ou bien au contraire les forces en présence sont-elles demeurées dans des proportions équivalentes en faveur du Brexit?
Alors, oui, on peut le mesurer parce qu'évidemment il y a des sondages permanents depuis juin 2016, donc on peut mesurer avec toute la prudence qui s'impose sur les sondages, mais enfin quand même ce que ces sondages nous montrent, c'est qu'il y a eu peu de mouvements, curieusement, et malgré la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il y a eu peu de mouvements, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des gens qui ont voté pour sortir et qui maintenant se disent qu'ils ont eu tort, mais il y a aussi, curieusement, des gens qui ont voté pour rester et qui pensent qu'ils ont eu tort, qui maintenant veulent sortir. Au total, il y a peu de mouvements, le peu qu'il y a, c'est quand même en direction de rester. Mais est-ce que ce serait suffisant? On est encore dans la marge d'erreur, si vous voulez. On n'est pas du tout dans une situation où les sondages donneraient 70% pour rester. Hein, pas du tout. On est 53-54% pour rester, ce qui n'est pas très loin de ce que disaient les sondages avant le référendum de 2016. Donc, c'est pas concluant.
Est-ce que cette situation fait bouger l'Europe, Vivien Pertuso? Est-ce que le Brexit, qui est quand même un immense camouflet pour l'Europe, puisque cela signifie qu'elle n'a pas réussi à démontrer l'intérêt de la forme politique qu'elle représente pour l'un des pays membres. Alors un ancien pays membre, je ne sais pas quel terme employer, il est au purgatoire actuellement, ce pays. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses qui ont changé dans le fonctionnement de l'Europe suite à ce Brexit?
Alors oui et non. Je vais commencer par le non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les Européens, finalement, le Royaume-Uni a toujours eu un pied dedans, mais un pied dehors aussi. Donc la situation a été la même depuis l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu un référendum tout quelques années après l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne sur la question de rester ou de sortir. Donc les Européens ont été habitués à un Royaume-Uni un peu compliqué à gérer. Donc c'est vrai que pour eux, c'est un pays un peu différent des autres. Le oui, dans le sens où il y a quand même eu cette prise de conscience qu'il fallait réfléchir à ce que l'Union européenne devait proposer. Donc c'est pas tant le comment gérer la situation du Brexit, c'est le Brexit plus un certain nombre d'autres indices montrent que nous devons réfléchir à la manière dont l'Union européenne doit évoluer à l'avenir parce qu'il y a un problème de représentation, de légitimité, de crédibilité, etc. Et donc il faut qu'on réfléchisse à ces questions-là. Néanmoins, on voit bien que depuis le référendum de 2016, pour le moment en tout cas, peu de choses ont évolué. Il y a eu des tentatives, il y a eu un certain nombre de réunions, de conférences, de réflexions, de groupes de travail, de consultations citoyennes, etc. qui ont été menées depuis 2016. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a relativement peu de projets concrets qui ont été lancés depuis 2016 pour montrer que il faut lancer une nouvelle dynamique.
Et dans la perspective des prochaines élections européennes, qu'y a-t-il qui pourrait signifier que cette question du Brexit a été intégrée, qu'elle est aujourd'hui un risque bien perçu de la part des institutions européennes, Vivien Pertuso?
Relativement peu de choses. C'est vrai que les élections européennes approchent dans un climat assez similaire à toutes les élections européennes, c'est-à-dire qu'on a pour le moment relativement peu de dynamique européenne. On a beaucoup de dynamique nationale sur les élections européennes, mais relativement peu de dynamique européenne. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va arriver à peu près comme d'habitude au moment des élections européennes, avec des votes qui seront dominés par des enjeux nationaux et un agenda stratégique qui aura peut-être été élaboré au sein du Conseil européen par les 27, voire 28, si jamais Theresa May participe encore à ces réunions-là. Mais rien qui puisse véritablement donner l'impression que, après ces élections, un nouveau vent va souffler sur l'Union européenne.
Votre point de vue à ce sujet, Pauline Schnapper?
Oui, ce qu'on voit, ce sont des débats nationaux, effectivement, pour l'instant. Et la tentative de certains, Macron d'un côté, mais aussi les dirigeants italiens, polonais, hongrois de l'autre, d'européaniser le débat, si je puis dire, entre populistes d'un côté et élites mondialisées, pour reprendre leur vocabulaire de l'autre, pour l'instant, pas vraiment pris dans les opinions publiques. L'idée même, par exemple, d'avoir une liste des gilets jaunes aux élections européennes, c'est vraiment la preuve qu'on est encore dans le débat national. Je veux dire, qu'est-ce que voudraient dire des élus européens des gilets jaunes? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens du point de vue du Parlement européen. Mais ça en a un, ou ça en aurait un, peut-être, d'un point de vue strictement français. Donc, pour l'instant, je crois que c'est ces élections européennes, mais comme vous dites, comme à chaque fois, se joue plutôt sur des enjeux nationaux, ce qui est toujours regrettable, évidemment.
Mais peut-être qu'à la faveur donc de la crise des gilets jaunes, justement, on a différentes interprétations sont évidemment en cours, mais l'une des interprétations, c'est de dire qu'on a affaire à une classe moyenne en chute, qu'on a affaire à des gens qui ont été oubliés des politiques publiques. N'est-ce pas en quelque sorte exactement le prisme qui a été utilisé pour expliquer le Brexit en Angleterre?
Oui, si y a un parallèle assez frappant dans la sociologie électorale entre les partisans du Brexit en 2016 et les gilets jaunes aujourd'hui, c'est-à-dire bon, il faut pas non plus simplifier, hein, mais enfin, en gros, c'est vrai qu'on parle de gens au profil relativement similaire. Si vous regardez donc qui a voté pour le Brexit en 2016, ce sont, alors là encore, hein, on simplifie, mais enfin majoritairement des gens âgés, peu éduqués, aux revenus modestes, voire en baisse. Hein. Donc cette sociologie-là, et, évidemment, on la retrouve un peu sur les ronds-points depuis deux mois, en tout cas d'après ce que nous disent les enquêtes sociologiques qui ont déjà été faites. Donc en France, on parle de déclassement, c'est pas un terme qui est vraiment utilisé au Royaume-Uni, mais enfin c'est quand même bien vers ça qu'on fait allusion, ces populations du nord, de l'est de l'Angleterre, donc très loin des grandes métropoles. Londres, mais aussi les grandes villes comme Manchester et autres, qui ont voté largement pour rester dans l'Union européenne et qui réussissent mieux dans la mondialisation, pour faire court.
On parle de fuite des services publics en France, on parle également de pouvoir d'achat en baisse. C'est le cas aussi en Angleterre ?
Ah oui, oui. Alors, sur les services publics, il n'y a pas de doute là-dessus. Les réductions budgétaires depuis 8 ans maintenant ont principalement affecté les aides sociales, en général, mais aussi l'éducation. Alors la santé théoriquement non, mais en pratique si. Et donc c'est pas une question de désert médical par exemple comme en France. C'est pas tout à fait, si vous voulez, les débats sont pas exactement dans les mêmes termes, mais c'est quand même la même idée, c'est-à-dire moins de services, moins d'argent pour les services publics.
Vivien Pertuso, votre point de vue à ce sujet?
Tout à fait d'accord. Je rajouterais peut-être même un point supplémentaire sur la question identitaire, finalement. Ce qu'on a, alors là, c'est vraiment spécifique à l'Angleterre. Au nord et à l'est de l'Angleterre, il y a cette idée de qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Angleterre est au sein du Royaume-Uni et même plus largement dans le monde, mais surtout déjà à la place de l'Angleterre au sein du Royaume-Uni, avec cette idée que une perte de contrôle sur sa propre identité, que ça soit en Angleterre et par rapport au reste du monde, est quelque chose qu'on peut retrouver en France, mais qu'on peut retrouver également dans d'autres pays. Si on prend l'Italie notamment, c'est quelque chose d'assez proche. Donc il y a cette question identitaire. Assez globalement aussi, on retrouve la question de l'immigration qui arrive d'une manière ou d'une autre, et pas forcément dans les mêmes termes, dans beaucoup de pays européens, et qui peut créer effectivement des similarités entre les différentes situations nationales. Mais pour le moment, on n'a pas vu encore au niveau européen une convergence de partis politiques ou de mouvements politiques, parce que ça, c'est quelque chose qui est marquant et qui continuera à l'être, en tout cas pour les prochaines élections européennes. C'est que tous les partis populistes, nationalistes, extrême gauche et extrême droite ont énormément de mal à s'entendre, alors même qu'il peut y avoir des points de convergence, notamment sur les questions identitaires et d'immigration.
Alors s'ils s'entendent sur ces aspects-là, sur quoi en revanche ont-ils du mal à s'entendre, Pertuso?
Au niveau européen, c'est ce qu'ils veulent de l'Union européenne. Il y en a qui souhaitent sortir de l'Union européenne, il y en a de moins en moins quand même. Il y en a qui souhaitent sortir de la zone euro, il y en a qui souhaitent finalement un désengagement de l'Union européenne dans des politiques publiques nationales. Donc il y en a qui souhaitent une révision complète de la politique d'asile, d'autres une révision complète de la politique d'immigration.
C'est
très composite.
Et cela débouche donc sur un paysage très éclaté, pas de recomposition. Un mot de conclusion, Pauline Schnapper, maintenant, que va-t-il se passer? Donc on a bien compris qu'il y avait deux mois, a priori, pour trouver un accord. La plupart des gens s'accordent pour dire que deux mois, c'est très largement insuffisant. Donc la probabilité, c'est un nouvel accord si l'Union européenne accorde un sursis supplémentaire. Et c'est, semble-t-il, aujourd'hui le scénario le plus probable.
Là, vous me faites partir dans une direction sur laquelle je vais rester beaucoup plus prudente que vous. Non, je ne parierai pas.
C'est ce que le Monde d'hier, par exemple, évoquait.
Peut-être le seul pari que je ferais, c'est sur un prolongement de l'article 50, parce que ça, je vois mal quand même comment le Royaume-Uni pourrait sortir dans deux mois. Mais pour le reste, honnêtement, je n'en sais absolument rien. Il n'y a pour l'instant aucun consensus qui se dégage à Londres. Donc il va falloir que certains acteurs, soit côté gouvernement, soit côté opposition, bougent, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc du coup, je ne dis rien.
Vivien Pertuso, Pauline Schnapper, merci de nous avoir éclairé sur le Brexit. Bah oui, même s'il s'agit d'éclairer la pénombre, c'est tout de même un éclairage. Pauline Schnapper, votre livre, Le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union européenne, à la documentation française.